écoutez Europe 1. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Les maires ruraux présentent leurs doléances à Emmanuel Macron. On est à la veille du coup d'envoi du grand débat. Une consultation nationale dont l'indépendance sera garantie, assure le Premier ministre, avec la nomination de 5 personnalités qui s'assureront de l'impartialité et de la transparence de la démarche. Ce grand débat est une chance, une main tendue du pays au pays, dit le ministre de l'Intérieur. Quant à la lettre adressée aux Français par le président, on verra qu'elle n'a pas franchement convaincu les gilets jaunes. Près de 9 millions de contribuables toucheront demain sur leur compte en banque une avance, un acompte sur les crédits d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source. On vous explique tout. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Deux policiers de la BRI jugés à Paris pour un viol qu'ils auraient commis en 2014 sur une touriste canadienne dans les locaux du célèbre 36 Quai des Orfèvres. Après l'explosion de samedi rue de Trévise à Paris, une douzaine de bâtiments restent inaccessibles par mesure de sécurité. Pour leurs habitants, la priorité, c'est le relogement. Le mondial de handball, les Bleus face à la Corée ce soir. Le match vient de se terminer. C'était le troisième match de la France avant le choc contre l'Allemagne demain. Des Bleus malmenés en première mi-temps par une Corée agressive, mais qui se sont bien rattrapés et qui ont fini par l'emporter 34 à 23. On retrouvera Christophe Lamarre sur place d'ici la fin de ce journal. Du côté de la météo, Elena Morna nous annonce pour demain une journée très douce avec un ciel souvent gris sur une grande partie nord, lumineux entre l'Aquitaine, le Limousin, le Sud-Est et les Alpes. Le vent va progressivement se calmer enfin près de la Méditerranée. Prévision complète à la fin de ce journal. Et puis votre rendez-vous à 22h20 avec Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jacques Bali, le directeur du célèbre guide gastronomique Goemio.
Europe 1.
L'exécutif est donc en train de peaufiner les tout derniers détails du grand débat national qui débute demain et qui est censé apaiser la colère des gilets jaunes. Aurélie Herbemont, Édouard Philippe a donné des précisions ce soir. Le Premier ministre annonce notamment la nomination de 5 garants.
5 sages seront nommés pour garantir indépendance et impartialité du grand débat. Le gouvernement ne veut pas donner l'impression d'avoir la main mise, alors il nommera 2 garants seulement. Les 3 autres seront choisis par les présidents des assemblées qui ont déjeuné aujourd'hui à l'Élysée avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Le président de la République et moi avons souhaité proposer au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique, social et environnemental de désigner un représentant reconnu pour sa connaissance des sujets, pour son indépendance et pour son caractère, de façon à ce que ce comité des garants ne soit pas simplement l'expression de choix qui viendrait du gouvernement, mais bien la réunion de personnalités indépendantes désignées par l'ensemble des pouvoirs institutionnels.
On connaîtra le nom de ces 5 garants vendredi. Et histoire d'embarquer toutes les formations politiques dans cet exercice inédit, le gouvernement va proposer à tous les partis représentés au Parlement de participer à un comité de suivi chargé de veiller au respect du pluralisme dans ce débat.
Les précisions d'Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Notez qu'Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État chargée d'animer ce grand débat avec Sébastien Lecornu, sera demain matin l'invité d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1 à 8h15. Un débat auquel près de la moitié des Français se disent prêts à participer, résultat d'un sondage Opinionway pour Public Sénat. Des Français sans illusion toutefois, ils sont plus de 2 sur 3 à estimer qu'il ne permettra pas de sortir de la crise des gilets jaunes. Pour marquer le coup, en tout cas, le président se rendra dans l'heure pour le coup d'envoi de cette grande consultation. Demain, il sera entouré de plusieurs centaines d'élus locaux de Normandie, des maires dont il a reçu des représentants cet après-midi à l'Élysée, venus avec une immense clé USB représentant les doléances des Français. Parmi eux, il y avait notamment Vanick Berberian, le président des maires ruraux de France, plein d'espoir mais aussi de doutes.
Consulter les Français, c'est bien, mais si c'est pour leur dire « je vous ai compris et entendu et qu'il n'y a aucun débouché », ça posera un problème. Donc voilà, on attend d'en savoir un peu plus sur la manière dont le gouvernement va utiliser ces retours qui seront très très nombreux. Vous l'avez dit, 1 Français sur 2 a l'intention de participer, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Est-ce que vous avez senti que le rôle de maire était renforcé? Vous comprenez le sous-entendu, on l'avait peut-être un peu mis de côté par le passé.
Oui, ce rôle est toujours très très présent dans l'esprit de nos concitoyens. Mais c'est vrai que ces derniers temps, le gouvernement nous avait un peu négligé. Et là, il y a véritablement une prise de conscience que finalement, les maires sont quand même utiles et ils servent donc d'interface, en l'occurrence, entre des besoins exprimés par les citoyens et le haut de la pyramide qui est censé donc organiser les choses.
Vannick Berberian, le président des maires ruraux de France, qui était ce soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. À la veille du lancement de cette consultation nationale, Emmanuel Macron, vous le savez, s'est adressé aux Français, cette fois par une lettre qui trace les grands contours de ce débat. Pas de questions interdites, explique le président de la République, sauf peut-être sur ce qui a déjà été voté, notamment l'ISF. Emmanuel Macron évoque plusieurs sujets, la transition écologique, le vote blanc, mais aussi la laïcité, l'immigration. Il précise toutefois que cette consultation inédite n'est ni une élection ni un référendum. Mais a-t-il convaincu les principaux intéressés, ceux à qui il s'adressait en priorité, les Gilets jaunes ? Pas sûr du tout, si l'on en croit le coordinateur des manifestants dans la Meuse, Gilles Latour.
On parle toujours des mêmes choses. Il dit bien qu'il veut pas toucher à l'ISF parce que voilà, ils vont plus investir dans notre pays, mais ils investissent pas ces gens-là, tout le monde le sait quoi. Donc il veut pas bouger sur son programme, on a bien compris. Ça ne donnera rien. Ils feront peut-être un condensé, il lâchera peut-être 2-3 miettes comme il a fait le 10 décembre, mais je crois qu'aujourd'hui non, je pense qu'ils lâcheront rien. Tout ça c'est de la foutaise. Ils cherchent à gagner du temps. Ils savent plus comment faire pour calmer le mouvement parce que la colère elle monte de plus en plus et ils cherchent des solutions mais ils savent plus quoi faire. Franchement, on n'en attend rien.
Gilles Latour, Gilets jaunes de la Meuse, avec Théo Manval. Vous faites peut-être partie de ces 9 millions de Français environ qui toucheront demain sur leur compte en banque une avance, un acompte sur les crédits d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source. Au total, le Trésor public va distribuer 5,5 milliards d'euros à 8 800 000 foyers, pour être très précis. Alors c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés en tout cas, mais cet argent, il va falloir le manier avec précaution, Olivier Samin.
Oui, alors pour comprendre, je vous invite à faire un petit retour en arrière. En mai dernier, quand vous avez fait votre déclaration sur les revenus de 2017, si vous avez, par exemple, déclaré l'emploi d'une femme de ménage, cette dépense vous a donné droit à un crédit d'impôt. Eh bien, l'administration fiscale fait le pari que vous avez continué à employer cette personne en 2018 et que vous êtes donc éligible, cette fois-ci encore, à un crédit d'impôt. Comme elle ne peut pas faire apparaître ce crédit d'impôt chaque mois dans le prélèvement sur votre salaire, elle va vous le verser en deux fois. Demain, vous allez toucher une avance égale à 60% du crédit d'impôt que vous aviez touché l'an dernier. Le solde, elle vous le versera en même temps que votre avis d'imposition à la rentrée de septembre. C'est là qu'il faudra être attentif, car si dans les faits, vous avez cessé d'employer votre femme de ménage en 2018, vous devrez rembourser la totalité, ou en tout cas une partie, de la somme que vous allez toucher demain. Deux choses encore. Il n'y a pas que l'emploi d'une femme de ménage. Le système est le même si vous avez déclaré des dons, si vous avez payé une cotisation à un syndicat, si vous avez employé une nounou ou encore si vous avez financé l'hébergement de vos parents en maison de retraite. Et puis deuxième chose, les 60% vont être versés automatiquement sur votre compte, sauf si, comme 345 000 contribuables étourdis, vous avez oublié de donner vos coordonnées bancaires au fisc. Dans ce cas-là, vous recevrez une lettre chèque fin janvier.
Les explications d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal. Deux policiers de la BRI ont-ils violé une touriste en 2014 lors d'une soirée alcoolisée ? À tout de suite.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h09 et c'est la suite de votre journal. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Les deux policiers de la BRI jugés depuis aujourd'hui à Paris pour un viol qu'ils auraient commis en 2014 sur une touriste canadienne. Des faits qui se seraient déroulés dans les locaux du célèbre 36 Quai des Orfèvres après une soirée arrosée. Chloé Triomphe, vous avez suivi cette première journée d'audience. La touriste canadienne qui accuse les deux hommes est revenue en France pour ce procès auquel elle assiste assise non loin de ses agresseurs présumés.
Oui, sur le côté gauche de la salle, face à la cour, les deux policiers anciens de la BRI sont assis l'un derrière l'autre sur leur chaise, chacun vêtu d'un costume noir, sans oser tourner la tête derrière eux, où à un mètre de là, légèrement sur leur droite, se tient leur accusatrice. La Canadienne semble d'ailleurs les ignorer. Elle fixe le président, qu'elle écoute sans que l'on sache vraiment si elle comprend, ses avocats ayant précisé qu'elle avait à sa disposition deux interprètes qu'elle solliciterait selon ses besoins. Elle a précisé qu'elle assisterait à l'intégralité de ces 3 semaines de débat où les faits tels que présentés par l'accusation évoque un viol par plusieurs policiers avec la plus grande brutalité. Mais dès aujourd'hui, le président a rappelé toute la complexité de ce dossier qui avait d'abord conduit le juge d'instruction à ne pas renvoyer les fonctionnaires pour être jugés devant le tribunal, notamment à cause des changements de version et des incohérences de la plaignante. Une seule certitude, le climat général d'alcoolisation et de drague explicite de cette soirée. Les experts canadiens estiment pour leur part que les déclarations changeantes de la victime peuvent tout à fait s'expliquer par un syndrome post-traumatique. Les juges et les jurés ont 3 semaines pour se forger une intime conviction.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. À Paris, toujours l'émotion et les questions. 48 heures après l'explosion qui a coûté la vie à 4 personnes, dont 2 pompiers, et fait des dizaines de blessés rue de Trévise dans le 9e arrondissement. Explosion au gaz, une dizaine d'immeubles ont dû être évacués, plus d'une centaine de personnes relogées. Écoutez les dernières informations fournies ce soir en direct sur Europe 1 par la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkli.
Nous avons 7 bâtiments qui sont en arrêté de péril et 5 bâtiments qui sont en arrêté temporaire. Donc une douzaine de bâtiments qui aujourd'hui restent inaccessibles pour la sécurité de la population et du quartier.
Les habitants de ces bâtiments, est-ce qu'on va pouvoir les reloger rapidement ou est-ce qu'ils sont logés en attendant? Dites-nous un peu comment c'est organisé au niveau des services
depuis
de la mairie.
Depuis samedi, nous avons accueilli un peu plus de 500 personnes. La grande majorité de ces personnes ont trouvé une solution de relogement temporaire auprès d'amis et auprès de familles. Ce sont 40 familles que chaque soir nous hébergeons dans les hôtels du quartier. Une résidence de la ville de Paris également a été mise à disposition, boulevard Kellermann dans le 13e. Pour un certain nombre d'habitants, il va falloir maintenant réfléchir à un hébergement longue durée. Le bilan est très lourd, les dégâts matériels sont immenses et la situation, évidemment, ne va pas se rétablir demain matin. Il va falloir de longs mois, voire des années, pour cicatriser ces plaies qui sont absolument énormes.
La maire du 9e arrondissement de Paris qui était l'invitée ce soir du grand journal de Mathieu Béliard sur Europe 1. Un skieur hollandais est mort cet après-midi en Savoie, emporté par une avalanche dans un secteur hors piste de la station de Valmorel. Attention, le risque d'avalanche reste à un niveau élevé sur l'ensemble des massifs, y compris demain. L'enquête interne après la mort d'une patiente de 55 ans aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris le mois dernier, décès constaté 12 heures après son admission. Elle avait été retrouvée morte sur un brancard. Les causes de ce décès ne sont toujours pas expliquées. Mais aujourd'hui, la PHP a reconnu une série de dysfonctionnements. On a frôlé le blackout jeudi dernier. Notre réseau électrique s'est trouvé au bord de la rupture. Confirmation de la commission de régulation de l'énergie. L'alerte rouge a été déclenchée. Plusieurs gros clients industriels ont été priés d'interrompre leur production pour éviter le pire. C'est la première fois que ce levier d'urgence est activé depuis sa mise en place. Une enquête va être ouverte pour identifier l'origine de ce dysfonctionnement.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h13, merci d'écouter Europe 1. Et l'Europe est suspendue au vote du Parlement britannique. Demain, sur le Brexit, la Chambre des communes doit se prononcer sur cet accord négocié de haute lutte avec l'Union européenne par Theresa May. Mais très critiqué outre-Manche, la Première ministre a tenté une dernière fois de convaincre cet après-midi du bien fondé de cet accord. Et elle met en garde, rejeter ce texte risque de compromettre la sortie et la démocratie. Après 40 ans de cavale, Cesare Battisti, remis à la justice italienne, condamné pour sa participation à 4 meurtres et expulsé dimanche de Bolivie. Il purgera donc en Italie sa peine de prison à perpétuité. Il sera incarcéré en Sardaigne dans un service de haute sécurité. Les sports, les championnats du monde de handball masculin, les Bleus face à la Corée avant le choc contre l'Allemagne demain. C'était leur 3e match de poule dans ce championnat et une 3e victoire, Christophe Lamar.
Oui, l'équipe de France qui s'impose comme prévu, 34-23. Mais la manière a quand même de quoi inquiéter. Les doubles tenants du titre ont mis près de 3 quarts d'heure pour faire plier des Coréens survoltés. Il faut dire que les 10 000 spectateurs de la Mercedes-Benz Arena, des Allemands pour la plupart, rêvaient, espéraient un exploit. Il a failli se produire et il est probable qu'à la mi-temps, le sélectionneur Didier Dinard n'a pas vraiment récité des mots d'amour à ses joueurs. Trop de pertes de balles, d'erreurs défensives et par moments, un sentiment désagréable, un peu de facilité qui a failli coûter très cher à ces Bleus-là. Quelques-uns ont quand même tenu la maison lorsqu'elle tremblait, ainsi Nedim Remili ou encore les deux gardiens, Vincent Gérard et Cyril Dumoulin, lorsqu'ils n'ont pas été abandonnés par leur défense. Place maintenant à l'Allemagne demain soir pour le choc des Allemands qui n'ont pu faire mieux que match nul face à la Russie en fin d'après-midi et qui laisse donc la première place de ce groupe A à la France. Victoire des Bleus donc sur la Corée, 34-23.
Christophe Lamar qui suit pour Europe 1 à Berlin, ces championnats du monde de handball. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Demain, vous nous annoncez de la grisaille au nord, mais ce sera plus lumineux au sud.
Oui, Isabelle, ça y est, le ciel s'illumine enfin un peu plus dans le sud-ouest, mais l'après-midi seulement, parce que la matinée, ce sera encore bien nuageux et on aura quelques plaques de grisaille résistantes l'après-midi au pied des Pyrénées, du côté du Pays Basque, ainsi que près de la Garonne. Alors sur le sud-est et les Alpes, c'est du ciel bleu dès le lever du jour et un risque d'avalanche qui persiste, attention, en Savoie. Mais la bonne nouvelle, c'est pour les régions méditerranéennes, le vent Mistral et Tramontane qui rendent fou, eh bien, vont enfin s'essouffler après 3 semaines de ventilation non-stop.
plus au nord, eh bien on aura encore un cortège de nuages et quelques gouttes ou quelques flocons dans le nord-est. Rien à voir avec la cinquantaine de centimètres qui a blanchi les reliefs de l'Est ce week-end. Mais bon, on aura quand même aussi quelques éclaircies. Le tout dans une atmosphère bien douce, très peu de gelée demain matin. Allez, on aura moins 1 degré, c'est vrai, à Montauban ou encore à Annecy, positif partout ailleurs. Et l'après-midi, pas tout doux dans le Doubs avec 2 degrés à Morteau, 4 à Saint-Étienne, 6 à Clermont-Ferrand, 7 à Strasbourg, 8 à Alençon quand même, à Blois et Lyon, 9 au Havre, à Nantes et Angoulême, ainsi qu'à Toulouse, 10 à Paris, à Quimper, à Bordeaux et Pau, 15 à Montpellier et Marseille, 16 pour Bastia, des températures qui devraient fraîchir en fin de semaine avec une nouvelle offensive hivernale.
La météo, signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Abaud de boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur du Goemio. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse tout de suite à la bourse avec vous Didier Amour, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Wall Street commence la semaine en baisse alors que certains indicateurs économiques continuent d'inquiéter.
Ça recule sur le Dow Jones, moins 0,36%, 23 908 points, mais surtout c'est le Nasdaq qui perd du terrain. Près d'1%, moins 0,94% sur les valeurs de technologie, donc 6 905 points. Effectivement, les mauvais indices viennent une nouvelle fois de Chine avec une chute de 7,6% des importations en décembre, au plus bas depuis 2 ans et demi, conséquence du bras de fer commercial entre Américains et Chinois. Et ça donne un marché assez déprimé ce soir à Wall Street, avec un pétrole aussi qui retombe de 2%. Le baril est à $50.60. On revient sur la barre des $50, le baril WTI. Et les valeurs de technologie donc glissent de nouveau. Apple, moins 1,5% à $150. Microsoft, moins 0,7%. Cisco, moins 0,6%. IBM, moins 0,9%. Et Amazon, moins 1,4%. Il y a quand même une exception, c'est Citigroup du côté des bancaires qui gagne 4% après 4,3 milliards de dollars de profit au quatrième trimestre annoncé par Citigroup. L'euro est très stable, on est autour des 1,1450, 1,1460 exactement face au dollar.
Et la bourse de Paris aussi a perdu du terrain.
Ça glisse de 0,39%, ça descend à 4762 points. C'est la troisième séance de baisse consécutive à Paris. L'attente du vote au Parlement britannique, vous en parliez tout à l'heure, ça s'annonce pas terrible en fait sur le Brexit. Ça a freiné les initiatives des investisseurs avec une grosse incertitude sur ce dossier. Et quelques grandes valeurs ont poursuivi leur mouvement avec des groupes en particulier qui sont très exposés en Grande-Bretagne. On a Atos, moins 5,6%. On a Capgemini, moins 2,6%. Ça c'est du côté des services informatiques. Puis le luxe, encore en baisse, LVMH, moins 2,5%. Kering, moins 2%. Faisant plutôt écho aux mauvaises statistiques chinoises publiées ce matin.
Et exception du jour, Didier, le secteur automobile qui reprend un peu de hauteur.
Oui, qui avait été l'un des secteurs parmi les plus sinistrés en fin d'année dernière, avec les grands groupes exportateurs qui se reprennent un petit peu. Il y a des achats à bon compte, on va dire, sur Valeo, l'équipementier automobile, plus 4,2%. Michelin, plus 2,5%. Ça remonte aussi un petit peu sur Renault, plus 1,3%. Au Peugeot, c'est pas très spectaculaire, plus 0,3%. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Francfort, moins 0,3%. Bruxelles, moins 0,5%. Madrid, moins 0,6 avec Milan. Londres recule nettement de près d'1%. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,39%, 4762 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Amaud de boursier.com. Et à 22h20, c'est l'heure de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le directeur du Goemio.
Bonsoir Jacques Bally.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le nouveau directeur du guide culinaire Le Goemio, un guide que vous venez en partie de racheter avec un investisseur russe. Alors même si vous nous dites que l'entreprise va rester en France, elle restera une entreprise française, elle passe quand même un petit peu sous pavillon russe. Le Goemio, c'est le deuxième guide français de son secteur, derrière bien évidemment le guide Michelin. Première question peut-être toute bête, ils ont un avenir encore ces guides papier ?
Absolument, ils ont un avenir, et ils ont un avenir parce que sinon nous n'aurions pas fait cette démarche. Figurez-vous que j'ai commencé à regarder le Goemio il y a une dizaine d'années.
En 2013, je crois, j'ai vu.
En 2013, exactement, alors qu'il était la propriété d'un fonds d'investissement qui s'appelait Otium Capital. Et à ce moment-là, je n'ai pas réussi à faire la transaction jusqu'au bout. Le directeur général de l'époque a racheté l'entreprise. J'ai patienté 4 ans, 5 ans, et il y a 2 ans, j'ai décidé, à partir de la Russie, là où j'étais vice-président de Goemio Russie, de racheter cette entreprise. Alors, vous me demandez s'il y a un avenir. Je considère que les guides papier, c'est une association caritative. On est dans le caritatif. Et à côté de cette partie caritative, il y a une partie plus marchande. Et c'est cette partie marchande qui nous intéresse.
Premier axe de développement, le digital, parce que le Goemio n'a pas totalement pris ce virage.
Alors, le Goemio n'a certainement pas pris le virage du digital à temps.
Vous, très concrètement, vos projets d'investissement vont porter sur quoi et comment moi, potentiellement utilisateur du Goemio, je vais m'en rendre compte?
Pour répondre à cette question, il faut que je remonte un tout petit peu en amont. Un des métiers fondamentaux du Goemio ou des guides est d'être un tiers de confiance. Mmh. Être un tiers de confiance, ça l'a été pendant des années sur la partie guide gastronomique, restaurant et chef. Notre métier restera tout le temps d'être un découvreur de talents, d'être celui qui déniche des nouveaux établissements, les met en avant, les valorise et valorise toute la filière autour de ce chef et de ce restaurant. Une fois que je vous ai dit ça, eh ben, soyons honnêtes, il n'y a pas de business model. Mmh. On envoie des enquêteurs, on paye nos additions, on écrit un certain nombre de choses.
Et les 40 000 exemplaires vendus, ça ne permet pas de compenser tout ça chaque année?
40 000 exemplaires vendus dans une phrase à la sémantique, comme vous la donnez, ne veut pas dire qu'à la fin, ils sont vendus. Il y a des partenaires qui participent,
d'accord, etc. En tout cas, aujourd'hui, la vente ne suffit
non,
pas.
La vente ne suffit pas. Il n'y a pas de business model réel.
Donc, de façon très concrète, comment moi, une fois que vous aurez réussi tout ce que vous voulez faire dans le digital, je vais voir le nouveau Goemio 2.0.
Eh bien, écoutez, à partir du moment où on est un tiers de confiance et que le champ des possibles, le spectre de l'environnement culinaire et alimentaire est beaucoup plus vaste que celui qui se situe dans l'univers de la restauration, je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, Goemio va être restructuré en 4 départements. Le premier département historique fondamental sur lequel on s'appuiera toujours, c'est Goemio Guide. En revanche, ce qui est sûr, c'est que 3 autres départements vont voir le jour. Le premier département, c'est Goemio Éducation. Ensuite, il y a la partie Goemio Digital. Goemio Digital est lié à Goemio Service, Goemio labellisation. À partir du moment où on est un tiers de confiance, nous allons agréger autour de nous tout un big data, tout un ensemble d'informations qui nous permet de récupérer de l'information d'un restaurant, d'un chef, mais d'un artisan, d'un lieu de production agricole ou d'un lieu de transformation ou de distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous serons en mesure d'avoir dans notre base la capacité de détenir une information caractérisée que le grand public sera en mesure d'utiliser pour qualifier, certifier l'ensemble de son circuit qualité. Nous allons réaliser un certain nombre d'activités autour de l'audit du conseil dans des branches comme la restauration collective, comme la production alimentaire.
C'est-à-dire que Goemio va demain devenir une sorte de label de qualité. C'est-à-dire que si vous donnez votre label à une boulangerie, à une maison de retraite, à un producteur agricole, ça voudra dire que vous aurez vérifié quoi et qu'il aura quoi comme ADN qui, moi, peut me rassurer en tant que consommateur.
On aura regardé, validé ce qu'on va pouvoir appeler le parcours de production et le parcours de l'expérience client pour, à un moment donné, concrétiser, être sûr que, in fine, l'expérience client sera bonne. Nous allons remonter en amont sur l'ensemble du parcours qui aura mené le produit de la fourche à la fourchette pour qu'in fine, à un moment donné, le consommateur qui passe devant un artisan et qui va acheter son saucisson, son pâté en croûte, il a besoin d'un tiers de confiance.
Mais comment vous gagnez votre vie? C'est-à-dire que pour avoir ce label Goemio, il va falloir payer? Parce qu'il va falloir répondre à des critères?
Absolument, absolument. Nous avons été analyser le parcours de restauration d'un grand opérateur de maison de retraite. Eh bien oui, nous avons été payés pour analyser, contrôler, auditer et demain conseiller le parcours restauration de cette chaîne de maisons de retraite. Évidemment, nous avons été payés pour ça.
Et combien ça coûte justement d'avoir le label Goemio? Ça vaut quoi aujourd'hui ce label Goemio?
Alors, le coût n'est pas le coût du label, bien évidemment. Le coût ou le prix, c'est le prix de l'activité d'analyse du parcours de restauration. Preuve en est, c'est que dans le cas précis dont je vous parle là, si les derniers chiffres que j'ai reçus ce matin sont justes, sur un global d'une quarantaine de maisons analysées, seuls 25 ont obtenu le label tant voulu. 15 vont devoir repasser un certain nombre de critères d'évaluation.
C'est-à-dire que là, pour que ces maisons de retraite aient le label Goemio, vous leur avez dit non, il faut améliorer tel ou tel point, telle qualité de produit, telle utilisation de produit. Et si vous arrivez à ce degré d'exigence, nous vous donnerons ce label.
Vous avez parfaitement synthétisé la chose. Il y a un référentiel. Ce référentiel comprend dans la partie santé 295 points, c'est-à-dire que l'évaluation du parcours de restauration de l'univers santé, c'est 295 points. c'est extrêmement important. On parcourt ces 295 points. Ils sont évalués. Une fois qu'ils sont évalués, il y a une restitution qui est faite. Une fois que les corrections demandées sont faites, nous réévaluons. À la suite de ça, nous nous réunissons, comme nous le faisons par ailleurs dans la partie guide, en analyse, discussion, salle de rédaction, ben, nous le faisons pour les missions de conseil. Et dans ce cadre-là, seuls 60% ont pu obtenir le label voulu.
Et c'est en cela où il est capital pour vous que le guide garde un poids extrêmement important, puisque c'est le gage de qualité.
Exactement.
C'est la marque de fabrique.
Absolument, vous avez raison. On tire notre légitimité, notre crédibilité à travers le guide historique. À partir de là, nous allons vers d'autres activités. Ces autres activités sont marchandes et on n'a aucun scrupule à l'annoncer et à le dire.
Pourquoi vous ne voulez pas dire combien ça vous a coûté d'acheter le guide Goemio ?
De mon côté, je n'y voyais pas vraiment d'inconvénient.
Bah alors allons-y, ça coûte combien ?
Non, mais comme vous pouvez l'imaginer, je suis soumis à des clauses de confidentialité qui seraient extrêmement préjudiciables pour moi si je décidais de les lever. Donc je ne peux pas vous dire.
Eh bien, merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Jacques Balic est donc le nouveau directeur du guide culinaire Goemio. Mais on a vu ce soir que c'était beaucoup plus qu'un simple guide culinaire. À demain, 22h20.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Bonjour, c'est pour un débat, titre Libération, avec une photo d'Emmanuel Macron, visiblement en train de discuter avec un habitant par une fenêtre entrouverte. Pris dans la tourmente des Gilets jaunes, le président tente, avec son grand débat national, de renouer avec les fondamentaux de la campagne d'En Marche, pas gagné, écrit Libération. Le journal L'Opinion revient quant à lui sur la lettre adressée aux Français par Emmanuel Macron, avec ce titre, les non-dits de Macron. Dans cette lettre, écrit L'Opinion, le chef de l'État tente, par ses impasses et ses indications, d'orienter le grand débat national en suggérant les questions identitaires ou institutionnelles. À la une de l'Humanité, cahier de doléances, ce que Macron refuse d'entendre. Une photo avec les pages noircies des revendications des Gilets jaunes qui porte un espoir profond de changement. Espoir, nous dit l'Humanité, que l'exécutif choisit d'ignorer. Affaire Carlos Ghosn, le patron de Nissan sort du silence. Et c'est une interview exclusive à lire demain chez nos confrères des Échos. Un entretien dans lequel il se dit sous le choc des révélations de l'enquête et réfute toute théorie du complot. À ses yeux, l'alliance avec Renault est cruciale. Et puis La Croix nous rappelle que le vote sur le Brexit est prévu demain au Parlement de Londres. L'Europe, écrit Jean-Christophe Ploquin, retient son souffle. La première ministre, Theresa May, espère qu'une majorité approuvera l'accord qu'elle a négocié durant 17 mois avec les dirigeants européens, mais rien n'est moins sûr. En cas de rejet, une grave crise politique ébranlera son gouvernement, son parti et le pays tout entier. La perspective d'une sortie brutale de l'Union européenne le 30 mars, sans la période de transition qui aurait permis d'organiser les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, surgira comme un iceberg déchirant le brouillard. La Banque d'Angleterre prévoit dans ce cas un effondrement de la monnaie et une montée en flèche du chômage et de l'inflation. La police a même demandé aux commerçants d'embaucher des vigiles pour faire face au risque de voir les clients se ruer dans les magasins pour constituer des stocks. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters, que je suis ravie de retrouver pour cette nouvelle semaine pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle, moi aussi ravie de vous retrouver et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.